Je reviens à ce que je disais. Le Seigneur est un être relationnel. Il aime que nous soyons en relation. Il aime quand nous soyons, que nous soyons ensemble, mais il aime être en relation avec nous. Et je sais que pour plusieurs, en général, c'est ce que je remarque en tout cas, déjà dans ma propre vie, parfois, selon les circonstances, parce qu'il y a des moments, vous savez, où on est un peu plus relâché dans notre vie personnelle, dans notre vie spirituelle, non ? Non ? Bon, vous êtes les seuls alors à être bon. Mais moi, je suis comme ça. J'ai des moments dans ma vie où je me relâche un peu et j'ai toujours des difficultés de croire que Dieu me reçoit même lorsque je me relâche, alors que c'est entièrement faux. Alors, on va parler de la première partie d'un message qui parle des étapes nécessaires à la vie d'un disciple. Je dis même pas nécessaire, je pense que j'ai mis indispensable. Oui, c'est ça. Des étapes indispensables. Ce que je vous demande de faire ce matin, parce que je vais parler de choses que vous connaissez, que vous saisissez, que peut-être vous avez vécu, mais ce que je vous demande, c'est que à travers ce message, vous puissiez réfléchir sur votre propre vie. Ne me regardez pas, parce que ne regardez pas quelqu'un d'autre, mais regardez qui vous êtes face à ce que dit la parole de Dieu. Il me semble en tout cas que pour être un disciple, c'est le thème actuel de mes prédications, de ce que j'ai demandé, c'est un disciple rempli du Saint-Esprit. Voilà, c'est le thème actuel pour ceux qui viennent pour la première fois ou qui viennent depuis peu. Le but du Seigneur, c'est de faire de nous des disciples remplis du Saint-Esprit. Voilà. Et je vais vous parler de ça. Et je vais vous parler peut-être de trois étapes qui nous amènent à être des disciples accomplis, si je puis dire, terminés. Bien que notre séjour sur Terre, dans notre séjour sur Terre, on ne sera jamais complètement mature, terminé, on le sait. Il y aura toujours cette chair qui nous poussera à faire le contraire de ce que Dieu nous demande. Mais néanmoins, c'est quand même assez intéressant de voir ce qu'on va lire ensemble. Je le lis avec vous ? On le lit ensemble ? Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Donc apparemment, il a laissé Apollos à Corinthe et lui, il se dirige à Éphèse, qui est la Turquie aujourd'hui. Hein ? D'accord ? J'y suis allé là-bas. Ayant rencontré, c'est un beau pays la Turquie, ayant rencontré, j'ai cherché Éphèse, mais je n'ai pas trouvé. Bon, ayant retrouvé quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ? Déjà, c'est une question intéressante, on le verra tout à l'heure. Tiens, ils ont cru et Paul leur demande s'ils ont reçu le Saint-Esprit. Petite question, je reviens après. Ils lui répondirent, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisé ? Ils répondirent, du baptême de Jean. Et là, il est question de Jean le Baptiste, d'accord ? Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui devait venir, qui venait après lui, c'est-à-dire Jean-Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, ils parlaient en langue et prophétisaient. Donc, on est dans une situation où, au départ, vous avez des gens qui ont la foi, qui visiblement se sont repentis, puisqu'ils sont passés par le baptême de Jean le Baptiste, mais qui sont à une étape de leur vie de disciple. Et là, Paul est en train de les amener dans une seconde, puis une troisième étape. Vous avez compris ça ? En fait, c'est des gens qui ont la foi, qui croient. Paul les amène vers le baptême d'eau, puis le baptême dans l'Esprit Saint. Intéressant. Ils étaient environ 12 hommes. Ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parla librement. Pendant 3 mois, il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, comme quoi, hein, quelques-uns devant la multitude. Il décrit et ils ont un cœur endurci, incrédule, et ils nient. En fait, ils sont en train de s'opposer à l'enseignement de Paul. Un petit groupe de personnes qui va, si vous me permettez l'expression, mettre le foutoir dans ce que Paul est en train de faire. Et regardez ce que Paul fait. Il se retira d'eux, sépara les disciples. Et remarquez, les disciples, les gens avec qui il était, sont appelés disciples comme au départ. Au départ, il rencontre quelques disciples. Ça veut dire que quelqu'un qui croit, qui a la foi et qui s'est repenti est considéré comme un disciple. Et quelqu'un qui suit un enseignement pendant 3 ans après est toujours considéré comme un disciple, selon Paul, ou en tout cas selon Luc. Et pourquoi je vous dis ça? C'est parce que dès lors où on rencontre le Seigneur, dès lors où on reçoit Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur dans notre cœur, nous considérons non pas comme des chrétiens, mais comme des disciples. Ok? Et il se retira d'eux, sépara les disciples, et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. C'est quelque chose que moi, j'ai toujours aimé ce passage. Quand je le lis, je suis toujours émerveillé qu'à partir de 12 hommes, toute une région du bassin méditerranéen et de la Turquie ont été impactées, touchées par l'intervention du Saint-Esprit dans la vie de 12 hommes. On est combien ici? On n'est pas très nombreux, mais on est quand même un peu plus que 12. Et vous imaginez ce que Dieu peut faire si nous commençons à passer les étapes que Dieu veut bien nous donner de vivre. Et les 3 étapes, elles sont celles-ci. Ces disciples-là, ils ont fait 3 choses. 1, ils se sont repentis. Ils sont passés par les eaux du baptême de Jean. On va voir qu'il y a une différence entre le baptême de Jean et le baptême, ce qu'on appelle le baptême chrétien. Le deuxième, c'est qu'ils se sont engagés à devenir des disciples par les eaux du baptême. 2e étape. Après, c'est à vous de voir. Vous êtes baptisé, pas baptisé, vous êtes repenti, pas repenti. On n'a pas à juger. Vous voyez vous-même, dans votre cœur, dans votre âme, en votre âme et conscience, vous réfléchissez à ça, vous dites « Où j'en suis ?» En tout état de cause, là où Dieu vous nous amène après, c'est à recevoir la puissance du Saint-Esprit. Autrement dit, ces 3 étapes, elles sont indispensables. C'est le plan du salut pour quiconque un jour reçoit Jésus-Christ dans son cœur, comme Sauveur et Seigneur. Il n'y a pas d'autres étapes, si je puis dire. Ce sont les 3 étapes indispensables. Si tu veux plaire à Dieu, tu dois rechercher ces 3 étapes-là. Et tout disciple accompli doit vivre ces 3 étapes qui sont un modèle du Nouveau Testament. Alors on va voir le baptême de Jean, la repentance. En Marc, chapitre 1, versets 4 et 5, il est écrit que Jean parut dans le désert prêchant le baptême de repentance. Vous savez que Jean le Baptiste, ça a été lui qui a été rempli du Saint-Esprit dès qu'il était dans le ventre de sa mère. Elle s'appelait comment, la maman de Jean-Baptiste? Élisabeth. Et dans le cœur, Élisabeth sent l'Esprit de Dieu se saisir de son enfant. Il n'est pas encore né qu'il est rempli de l'Esprit. Pas encore né qu'il est conduit par l'Esprit, ce bébé. Et cet homme, dès qu'il va être à l'âge adulte, il va prêcher la repentance. Et quelque chose qui est assez fou, nous, on dirait, on va faire, pour prêcher l'évangile, on va aller au centre de Lille, on va aller sur la place de Lille et on va prêcher l'évangile. Non, là, je sais pas, ils s'en vont dans un... Là, ils s'en vont dans le désert. Pour la rémission des péchés. Et tout le pays de Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendent auprès de lui. C'est quelque chose qui est fou quand même. Il est dans le désert. Il prêche la repentance. C'est-à-dire qu'il est en train de dénoncer le péché dans la vie des gens. Et les gens vont le voir. Sont-ils maso ? Et confessant leur péché, en plus, ils arrivent, vous imaginez, Jean est dans le désert, il est en train de baptiser, et les gens disent, moi je suis un voleur, moi je suis un adultère, moi je suis un menteur. Ils sont en train de confesser publiquement leur péché. Wow. Ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Jean, il prêchait le baptême de repentance. Il prêchait, il était en réalité en train de préparer la venue de Jésus-Christ. Parce qu'il était en train de révéler dans le cœur des hommes leur péché, leur désobéissance, leur nature pécheresse. Combien d'entre nous, nous ne disons pas des fois, c'est plus fort que moi, j'y arrive pas, c'est le péché qui est en moi, c'est quelque chose qui est plus fort que moi, je n'y arrive pas. D'accord ? Et Jean-Baptiste, en fait, il a le rôle de révélateur. Il révèle ça dans le cœur des gens. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous avez fait de la photo. À une époque, j'ai fait un peu de photo à l'école, au collège ou au lycée, je ne sais plus. À l'époque de l'argentique, vous voyez, on avait notre pellicule et puis on développait les photos et puis il y avait le révélateur. Ben voilà, le révélateur, c'était Jean le Baptiste. Il était venu révéler ça dans la vie du cœur du peuple. Parce que le peuple avait besoin de se rendre compte de son péché, parce qu'il est en train de se dire « je ne peux pas continuer comme ça ». Et il était en train de préparer la venue de Jésus qui allait dire « moi je vais mourir pour les péchés des hommes sur la croix, et quiconque croira que je suis mort sur la croix sera pardonné et sera justifié par mon sacrifice ». Le but, c'était de préparer le chemin du Seigneur. Le cœur du peuple de Dieu devait être préparé à la repentance pour la venue de Jésus-Christ. Et enfin, la repentance, c'est le message que vous devez recevoir. Nous devons recevoir. Et la première étape de ma vie de disciple, c'est d'entendre à un moment donné que je ne suis pas digne, que ma vie est une vie où je pêche, où j'ai besoin de quelque chose, où j'ai besoin de me repentir. En gros, tu dois te dire ce matin, si tu ne t'es jamais posé la question, ma vie, elle est escalée, et ça ne peut plus durer. Ça doit changer. Et je dois à un moment donné me dire, voilà, je marche dans cette voie-là, qui est une voie qui n'est pas juste, et à un moment donné, je dois faire demi-tour. À un moment donné, je dois me dire, je ne peux plus vivre comme ça. Et je dois me tourner vers autre chose. Voilà ce que Jean-Baptiste est en train de faire par le baptême de repentance. Et tout le pays de Judée est venu à lui, comme je vous disais, dans le désert, et il est écrit que tout le pays de Judée et Jérusalem venez à lui. Et en très peu de temps, il a eu un ministère très très court, Jean-Baptiste. Très très court. C'est quand même fou, quoi. Vous savez pourquoi ? Parce que cet homme était rempli de l'Esprit. Parce que cet homme était plein d'Esprit Saint. Et là où le feu de l'Esprit brûle, là viendront les gens. Je répète, là où le feu du Saint-Esprit brûle, là viendront les gens. Ce n'est pas une organisation, ce n'est pas ma manière de faire, ce n'est pas ce que je fais, ce que j'organise. On fait des choses ici, on organise des choses, mais ce n'est pas ça qui amène les gens. C'est le feu de l'Esprit en moi qui amène les gens vers moi. C'est l'Esprit de Dieu en toi qui amène les gens vers toi pour que tu les amènes à Dieu. Parce que le but de Dieu, c'est de sauver les hommes. Et si vous avez un sujet de prière pour cette semaine, premier sujet de prière, Seigneur, que je brûle pour toi par le feu de ton esprit, pour que lorsque les gens viennent vers moi, ils voient en moi le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, et que ce feu qui brûle en moi puisse embraser leur cœur. Il y a un prédicateur qui s'appelle Mamadou Karambéry, vous connaissez peut-être, non ? Qui connaît Mamadou Karambéry. Cet homme, c'est un homme d'origine africaine. Et cet homme, il vivait tellement le feu de Dieu, la sainteté de Dieu, qu'il paraît que quand il allait dans le métro, les gens, il ne disait rien, les gens s'agenouillaient devant lui, demandaient pardon à Dieu pour leurs péchés. Waouh ! Qu'est-ce que j'aspire à ça, moi ? Ce baptême exigeait trois choses. Jean-Baptiste, il ne jouait pas avec les émotions des gens, hein. D'ailleurs, il leur disait, race de vipères, qui vous a appris c'est pas ça que je vous appelle, hein. Ouais, une fois à Moucron, je vais prêcher à Moucron, je dis, regardez, imaginez un petit peu Jésus, quand on regarde la carte de visite des gars qui étaient avec Jésus, c'est des branquignoles, quoi. Imaginez ce que Dieu peut faire avec des branquignoles. Et les gens de Moucron ont cru que je leur disais qu'ils étaient des branquignoles. Donc, vous n'êtes pas des races de vipères. D'accord, je pèse mes mots. Le baptême de repentance est le fruit d'une décision, pas d'une émotion. Vous comprenez ce que je veux dire ? Même si on est touché émotionnellement. D'ailleurs, le jour de la Pentecôte, les gens, les 3000 hommes qui sont là, ont le cœur vivement touché. Mais Pierre les renvoie vers une prise de décision. Repentez-vous et soyez baptisés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Voilà ce que Pierre fait. Il les amène dans une décision. Et le but, parce que je pèse les mots quand je dis ça, le problème des églises charismatiques, évangéliques, charismatiques, pentecôtistes, peu importe comment on appelle, c'est que souvent on joue sur les émotions des gens et pas sur leurs décisions. Et le but, c'est de prendre des décisions dans notre vie. C'est pas de ressortir d'ici en ayant le petit cœur bien touché. C'est pas ça le but. Que votre cœur soit touché, tant mieux. Mais qu'est-ce que je vais faire après que mon cœur soit touché? C'est ça qui est important. Et le baptême de repentance, donc, c'est le fruit d'une décision. Les gens qui allaient d'ailleurs, regardez, ils étaient chez eux avec leur climatisation. Ouais, il y avait la clim à l'époque de... Vous ne le saviez pas. Avec la climatisation à Jérusalem, ils quittaient Jérusalem et ils allaient dans le désert et ils se faisaient baptiser par Jean dans le Jourdain. Vous rendez compte? Il y avait vraiment une prise de décision concernant leur propre vie. La deuxième chose, c'est que Jean exigeait une confession des péchés. Il est dit, ils confessaient leurs péchés. Alors, s'il vous plaît, commencez pas à confesser vos péchés maintenant. D'abord, on n'a pas fini, il y a une finale de Coupe du Monde. Après, il y aura peut-être trop de boulot. Mais, en tout cas, ils déclaraient qui ils étaient. Comprenez ça? Et n'oubliez pas qu'il dit, si tu confesses tes péchés, et si tu crois, tu seras sauvé. Et même que la déclaration de mes péchés m'amène à la guérison, il est écrit. Waouh! Moi, une fois, j'ai vu un homme qui m'a déclaré de l'impureté dans sa vie. On a fait juste une petite prière, c'était dans la cuisine là-bas. Juste une petite prière. Le lendemain, il m'a rappelé, il m'a dit, Bruno, je suis délivré. Parce qu'il avait confessé. Jean exigeait donc une confession de péché. Et j'ai remarqué quelque chose. C'est que souvent les gens s'approchent de Dieu, veulent la guérison, veulent la délivrance, veulent la vie de Dieu, veulent être remplis du Saint-Esprit. Ils veulent passer toutes les étapes. Mais ils oublient une chose, c'est de commencer par confesser leurs péchés. Commencez par confesser. Je vous assure, vous savez pourquoi vous avez des luttes quand vous confessez vos péchés? C'est parce que le diable ne veut pas. Et je vous ai pas raconté ma conversion, mais moi je me souviens, le 21 avril 1989, c'était il y a pas longtemps, mon épouse et moi, nous étions à la maison avec un autre couple qui nous avait parlé de Dieu. Le Seigneur nous avait montré qu'il était vivant, d'une manière claire, nette et précise. Et à un moment donné, il dit, tu dois demander pardon à Dieu pour tes péchés. Le frère dit ça. Et je peux vous dire que pendant, ça a duré au moins 10 minutes, rien ne sortait de ma bouche. J'ai cru même que, je l'ai déjà raconté, je crois, mais qu'une barre était ici. J'allais faire un infarctus. Tellement, c'était fort, cette puissance qui était en moi. Et Le frère, à un moment donné, il dit, maintenant, tu le laisses tranquille au nom de Jésus pour qu'il puisse confesser ses péchés. Et là, j'ai commencé. Oh Dieu, parce que je ne savais pas comment l'appeler. Oh Dieu, s'il te plaît, pardonne-moi mes péchés. Et ce jour-là, ce poids qui était sur ma vie est sorti de ma vie. Et je n'ai jamais été aussi léger que ce jour-là. Jamais. Je peux vous dire. J'ai vécu comme quelqu'un qui a porté des sacs de ciment sur les épaules pendant des années et qui, d'un seul coup, on lui a enlevé tout. Ça, c'est la puissance de la confession des péchés. Et enfin, Jésus exigeait l'épreuve d'une vie transformée. S'il n'y avait pas de changement dans la vie des gens, vous savez ce que Jean-Baptiste faisait ? Hé les gars, retourne dans ton appartement à Jérusalem avec la clim. Il les renvoyait parce qu'il n'y avait pas de changement dans leur vie. Ça, c'était le baptême de repentance. C'était le sceau que les gens s'étaient réellement repentis. Ah, on ne va pas faire des baptêmes de repentance parce que ce baptême n'est plus valable aux yeux de l'apôtre Paul. Parce que l'apôtre Paul leur dit, mais de quel baptême avez-vous été baptisé ? C'est-à-dire qu'à l'époque du Nouveau Testament, semble-t-il, il y avait trois baptêmes. Le baptême de repentance, le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Et là, il est en train de le dire, c'est bien, vous êtes repentis de vos péchés, mais maintenant je veux vous amener plus loin. C'est bien beau de te rendre compte que dans ta vie, c'est pas terrible. Maintenant, je veux t'amener plus loin. Voilà ce qu'il est en train de dire. Et c'est pourquoi Paul amène ses 12 disciples éphésiens vers une autre étape, qui est l'engagement par les eaux du baptême. Et là, c'est plus le même baptême. Là, c'est le baptême qui m'engage à devenir un disciple. D'abord, il vérifie quelque chose. Il leur dit... Ils vérifient qu'ils ont bien reçu Jésus comme sauveur et Seigneur. Et Paul, il les conduit, il est écrit qu'ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Ils furent baptisés. Il y a donc une différence entre le baptême de repentance et le baptême chrétien. D'accord ? Une fois que vous êtes repenti, Dieu veut que vous vous engagiez à apprendre à faire ce qui est juste. Être baptisé, ce n'est pas, et je le déclare, ce n'est pas la purification des péchés. Parce que quand tu te repens, que tu reçois Jésus comme Sauveur et Seigneur, tu as l'assurance que le sang de Jésus te lave de tout péché. Le baptême, là, tel qu'il est dit, c'est que un jour je suis touché dans mon cœur, je me repens et je prends les eaux du baptême dans le but de devenir un disciple. Par le baptême, vous vous engagez à devenir un disciple. Le Nouveau Testament ne dit pas « tu te fais baptiser et tu deviens disciple ». Regardez, j'ai bien dit tout à l'heure, il rencontre les disciples, ils étaient 12, il les appelle disciples, ils sont déjà disciples parce qu'ils ont Jésus dans leur cœur, ils suivent les voies du Seigneur, d'accord ? Mais leur position et la maturité de disciples est différente avant et après le baptême. C'est-à-dire qu'une fois que Jésus t'a touché, le baptême t'engage à suivre les voies du Seigneur et à te laisser enseigner comme un disciple. Est-ce que je suis clair ? Est-ce que c'est clair dans votre esprit ? Parce que c'est vraiment important ce que je suis en train de vous dire. Alors, tout à l'heure, l'étape numéro 1, c'est est-ce que tu t'es repenti ? Là, étape numéro 2, est-ce que tu t'es fait baptiser ? Et est-ce que tu as bien compris que le jour où tu t'es fait baptiser, ce n'était pas la purification de tes péchés, mais un réel engagement à devenir un disciple et à suivre le Seigneur ? Alors, être baptisé, ça nous engage à trois choses. Romains 6 dit « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. » Nous tous qui avons été baptisés en Jésus, c'est le baptême en Jésus que nous avons reçu. C'est en sa mort que nous avons été baptisés. En réalité, quand tu te fais baptiser, c'est une bonne nouvelle, tu déclares ta sentence de mort. Ça veut dire que ce qui est ancien est mort. Ta vie ancienne est morte. Ce qui te lie encore au passé est mort. Tu es en train de déclarer que ton engagement dans les eaux du baptême t'amène à faire mourir ce qui est ancien. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Nous sommes passés par la tombe. Nous avons été enterrés. Et afin que, comme Christ est ressuscité des morts pour la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Par le baptême, tu déclares ta sentence de mort, mais par le baptême, tu déclares maintenant une vie nouvelle en Jésus. Et le baptême t'amène maintenant à avoir une vie qui va être transformée, changée. Tu ne penseras plus comme avant. Tu ne croiras plus que le passé qui déterminait tes actions va continuer à de le faire. C'est plus ton passé qui te lie. C'est exactement ce qui s'est passé en Égypte. Le peuple était un peuple lié, esclave. Il passe par les eaux de la mer, qui est une image du baptême, nous dit Pierre. Et il passe pour une nouveauté de vie. C'est exactement ça qui est en train de se passer. Autrement dit, l'acte du baptême est un acte d'engagement où tu déclares ta mort à ton ancienne vie et ta vie à une vie nouvelle. Ça va ? En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par sa conformité en sa mort, c'est fort ça. Parce que devenir enfant de Dieu, devenir disciple, c'est passer par les souffrances de la croix. Et quand tu ne peux pas demander la vie. Écoutez bien ceci. Tu ne peux pas demander la vie et la vie en abondance si au départ tu n'es pas la mort. Tu ne peux pas demander la résurrection si tu n'es pas mort avant. Et vous savez ce que j'ai souvent rencontré. Souvent. Et quand je dis souvent, allez, je dirais un baptême sur deux, je rencontre ça. Des gens qui sont prêts à recevoir toute la nouvelle vie de Dieu, mais pas à passer par la croix avant. Souvent, j'ai rencontré ça. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit. Vous savez, quand vous vous faites baptiser, quand tu passes par les eaux du baptême, tu déclares que même la puissance du péché qui est en toi est morte. Elle est rendue à l'impuissance. C'est puissant le baptême, vous comprenez ? Même si c'est un signe extérieur, même si c'est un acte extérieur, mais c'est en réalité ce qui doit se passer dans ta propre vie. La puissance du péché est amenée à son anéantissement par la puissance de la croix, par la puissance de ce que Jésus est mort sur la croix et a été cloué sur la croix. C'est ça qui amène l'impuissance du péché dans ma vie. La puissance de la croix. Donc, dans mon engagement par les eaux du baptême, je déclare que mon ancienne vie est morte. Je déclare qu'une nouvelle vie commence en sortant des eaux pour devenir conforme à lui par la puissance du Saint-Esprit. Est-ce que c'est toujours clair ? Oui ? On continue. Ça veut dire que ta vie ne t'appartient plus. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et je peux vous dire que ça, c'est un point important. Ta vie ne t'appartient plus. Elle appartient à Christ. Elle appartient à Jésus. Que je m'engage à suivre les enseignements de Jésus pour devenir un vrai disciple. Que mon but est de devenir semblable à lui. Et pas devenir membre d'une église ou d'une dénomination. Galates 3:27 dit, ne savez-vous pas, ou ignorez-vous, je crois, que Nous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, nous avons revêtu Christ. C'est intéressant, ce passage. Ça veut dire que là, tu revêts Christ, tu n'appartiens pas à une dénomination, baptiste, pentecôtiste, assemblée de Dieu, tu appartiens à Christ, tu n'appartiens même pas à Betsalel. Le problème, c'est que souvent on baptise et on forme les gens pour qu'ils deviennent membres de notre communauté, ou de notre église, ou de notre dénomination. Ce qui ne veut pas dire que nous ne devons pas avoir de communauté, d'église à laquelle nous sommes attachés. Mais le rôle du baptême, le but du baptême, c'est de revêtir Christ, c'est d'être disciple du Christ, c'est de suivre Christ, c'est d'être comme Jésus-Christ. Et moi, je me suis posé la question. Et je ne vous demande pas de répondre, j'aurais dû rajouter un point d'interrogation. Pourquoi enseigner des personnes avant le baptême alors qu'elles ne sont même pas prêtes à devenir disciples? En réalité, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On dit, d'ailleurs souvent c'est le pasteur qui va voir les gens, vous avez remarqué ça? Bon, ça fait quelque temps maintenant, tu ne ferais pas baptiser, etc. Bon, j'avoue que j'ai poussé un peu ma belle-fille à sort. Hein. J'y ai tant que tu te bouges un peu. Mais il y avait des luttes, c'est normal qu'on aborde le sujet. Hein, d'accord. Mais normalement, si tu comprends, qu'est-ce que Paul fait? Paul dit, voilà, c'est bien, tu as fait une rencontre. Il dit aux 12, vous avez fait une rencontre avec le Seigneur. Super. Mais il y a encore deux étapes. Et Paul est en train de les enseigner ce que je vous fais là, à partir d'acte 19. Il est en train de les enseigner pour amener les personnes vers l'étape ultime où ils seront remplis du Saint-Esprit. C'est uniquement ce qu'il est en train de faire. Et c'est ce que je suis en train de vous dire ce matin. Quelle est l'étape à laquelle tu te trouves? Vous voyez, c'est comme des graphes pour ceux qui ont fait un peu de programmation informatique, étape 1, puis 2, etc. Où tu en es? Parce que clairement, le but de Dieu, c'est de t'amener au baptême du Saint-Esprit. Au baptême du Saint-Esprit. Pierre donne une image du temps de Noé, qui était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps. Tiens, intéressant. Ça vient confirmer comme ce que je vous ai dit. Je ne dis pas que des bêtises. Ce n'est pas le baptême de Jean. Là, il parle du baptême de... baptême chrétien, allez. Mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Il faut donc répondre à Dieu avec une bonne conscience. Je crois que Jésus est mort pour la rémission de mes péchés. Est-ce que vous croyez cela? Je crois qu'il a été enseveli. Vous le croyez? C'est simple, la Bible. Hein. Je crois qu'il est ressuscité. Vous le croyez? Enfin, j'espère. Je me repens de mes péchés. Étape numéro 1. Je crois que Jésus seul peut me sauver. Et enfin, alors, s'il te plaît, Seigneur, reçois-moi et accepte-moi tel que je suis. Et je rentre dans les eaux du baptême. Et je déclare qu'aujourd'hui, tout ce qui est ancien meurt. Et je ressors des eaux du baptême en disant maintenant quelque chose de nouveau commence dans ma propre vie. La troisième étape, c'est une étape que je ne fais que survoler parce que ce sera ma deuxième partie. La prochaine fois que je vous parlerai ici derrière la chaire, je vous parlerai de l'immersion. Le baptême dans l'esprit, enfin, etc. Parce que le but, c'est ça. C'est de nous amener jusque-là, en tout cas. Je fais comme Paul. Paul, il impose les mains et il reçoit le Saint-Esprit. Par contre, il y a quelque chose d'intéressant là. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Petite question intéressante que je vous répète. Ils lui répondirent, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, ils parlaient en langue et ils prophétisaient. C'est tout simple. Vous imaginez, ils rencontrent des gars, comme c'était facile à l'époque. Vous savez pourquoi c'était facile ? Parce qu'ils s'en tenaient à ce qui était écrit. Et nous, nous cherchons à décortiquer tout. Ils rencontrent 12 gars qui ont fait une expérience. Il leur dit, ok, vous êtes repentis, baptême d'eau. Il leur explique ce que c'est que le baptême d'eau en deux coups de cuillère à peau, comme on dit. Hein ? Il leur explique le baptême d'eau. Ils ressortent de là, allez garçon, viens ici, imposition des mains, reçoivent le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'on est compliqué, nous, des fois ? On cherche à décortiquer. Y a-t-il un baptême dès que nous sommes nés nouveaux ? Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Là, c'est plus simple. Moi, je m'en tiens à ce que dit la parole de Dieu. Moi, je veux vivre la parole de Dieu. OK ? Voilà ce qui est écrit. Peut-on croire sans recevoir le Saint-Esprit ? Je vous laisse répondre. Priez, parce que je suis en train de préparer la prochaine prédication. Est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit ? Si oui, quels sont les signes de ce baptême ? Parler en langue ? Prophétiser ? Est-ce que vous avez d'autres choses ? Peut-être une vie... Oui, vas-y. Chasser les démons, enfin oui. Ne sommes-nous pas bloqués par notre méconnaissance du Saint-Esprit et de la volonté de Dieu ? C'est la question que je vous pose. Je pose les bases de la prochaine prédication. Est-ce qu'on sait réellement qui est le Saint-Esprit, son rôle, etc. ? Peut-être qu'on a besoin d'être enseigné, sans décortiquer. Hein. On va reprendre des textes, vous verrez, c'est très intéressant. On s'apercevra d'ailleurs que Jean-Baptiste, dès lors qu'il voit Jésus, il dit « Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu ». Il n'y a pas 36 trucs. Il ne dit pas « Oui, il fera ci, il fera ça ». Non, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. C'est-à-dire que le feu de l'Esprit rentrera en vous. Moi, c'est comme ça que je lis les choses. Enfin, peut-être pas vous, mais moi, c'est comme ça que je lis. Le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit ne sont-ils pas liés ensemble ? 1 Corinthiens 10, 2. Regardez, c'est vraiment intéressant. Parce que, bon, il y a des charismatiques, non charismatiques. Moi, j'entends bien. Mais quand je lis la parole de Dieu, je me rends compte, en réalité, et notamment dans ce passage, où Paul dit, « Frère, je ne veux pas que vous ignoriez. » Déjà, il peut y avoir une possibilité d'ignorance par rapport à ce fait. Écoutez bien ce qu'il dit. Nos pères ont tous été sous la nuée. La nuée représente le Saint-Esprit dans l'Ancien Testament. Quand la colonne de nuée s'élève, c'est le Saint-Esprit qui conduit le peuple. D'accord ? Ils ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer. La mer, la traversée de la mer, c'est une des explications, un des moyens que l'Ancien Testament nous parle du baptême d'eau. D'accord ? J'ai réussi à le dire. Et qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, la manne. La manne représente quoi ? La parole de Dieu. Christ incarné dans la vie des gens. C'est une parole, non pas qu'ils regardaient. Ils se sont pas simplement dit, parce qu'il y a beaucoup de gens, quand ils ouvrent la Bible, disent, qu'est-ce que c'est ? En fait, manne, ça veut dire qu'est-ce que c'est ? En hébreu. C'est quoi ça ? Bon, si par exemple la Bible avait été écrite en ch'ti, ça aurait été chez quoi je t'affaire ? Vous voyez ? Il se pose la question. Il dit, cette manne-là, c'est la parole qu'ils prennent et qu'ils avalent. Et regardez, comme je vous disais, ces disciples-là, de l'époque de l'Ancien Testament, ont été baptisés sous la nuée, ils sont passés à travers les eaux, et en plus, ils ont mangé cette nourriture. Tout ce que je vous ai dit depuis le début est résumé dans ce verset. Ils ont été des disciples. C'était des disciples. Dès le moment où ils ont mis le sang sur le linteau des portes, ils étaient disciples. Mais le disciple d'Égypte n'est plus le même quand il est en terre promise. Vous comprenez ça? Qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher, c'était Christ. C'est la vie par l'esprit, ça. On retrouve parole de Dieu, Saint-Esprit. On retrouve le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit. On retrouve tout, là. Et regardez, chaque membre du peuple de Dieu a vécu ces deux expériences. Deux choses l'ont été données de vivre. La nuée est descendue d'en haut. C'est l'image du Saint-Esprit. Le peuple a traversé la mer. C'est l'image du baptême d'eau. Ces baptêmes ont été la coupure avec l'Égypte. Vous comprenez ça? C'est-à-dire que le baptême, c'est pas simplement un acte comme ça où on trempe quelqu'un dans l'eau. Il a une signification et une portée spirituelle. Tu veux être délivré de tes mentalités d'Égypte, de tes mentalités d'esclaves, du péché, passe par les eaux du baptême. Oui, passe par les eaux du baptême. Je comprends pourquoi, ça m'a toujours posé problème, quand il est écrit dans Marc 16, 16, celui qui croira et se fera baptiser sera sauvé. Ça m'a toujours posé problème ce passage. Je me dis alors, les gens qui croient, qui ne sont pas baptisés, ne sont-ils pas sauvés? Je me suis souvent posé la question. Moi, je ne me suis pas posé la question pour moi, je l'ai fait tout de suite, comme ça j'étais tranquille avec ça. Mais il y a des gens qui se posent la question, est-ce que ça vaut le coup de se faire baptiser? Néanmoins, quand je lis ce passage, je ne dis pas que les gens qui ne sont pas baptisés ne sont pas sauvés, s'ils ont la foi. Je ne dis pas ça, enregistrement, Mais je me pose la question quand même, et je me dis que si je veux une vie totalement libérée de l'Égypte, est-ce que le baptême n'est pas une des solutions avec la confession et la repentance? Je me pose la question. C'est tout. J'ai le droit de me la poser, Puis je suis derrière la chair. Moi, j'ai le droit. Ensuite, ces baptêmes sont la coupure avec l'Égypte. Quand ils sortent de l'eau et conduits par la nuée, ils n'ont pas le même maître. Je vous l'ai parlé l'autre fois, lors d'une dernière prédication. En Égypte, Pharaon dominait. Ils étaient sous l'oppression de Pharaon. Et Pharaon voulait les maintenir sous l'oppression. Ils passent la mer par le baptême. Ils n'ont plus le même maître. Ils n'ont plus la même loi. Ils n'ont plus la même vie. Tout a changé par le baptême. Les Égyptiens essayent de passer sans la foi par les mêmes eaux. Et que leur arrive-t-il aux Égyptiens? Que leur arrive-t-il? Ils sont engloutis par les eaux. Et ils meurent et ils sont détruits. C'est vraiment intéressant. C'est-à-dire que c'est la foi qui pousse ce peuple à traverser les eaux. C'est la parole de Dieu qui a été déclarée. Cette parole, ils la prennent. Ils disent, on va y aller, même si ça n'a pas été facile. Ils ont quand même été acculés devant la mer, à Réphidim, je crois. Devant la mer, ils voient les Égyptiens. Et merci Seigneur, parce que la nuée protège le peuple. La colonne de feu protège le peuple. Et Dieu dit, vas-y, étends ton bras avec ton bâton et frappe les eaux, je ne sais plus ce qu'il fait. Et la mer s'ouvre et le peuple passe. Ils obéissent à la parole de Dieu. Comprenez ce que je veux dire? Ils obéissent par la foi à ce que Dieu dit. Et là, les Égyptiens, eux, veulent passer et ils sont engloutis. Ils meurent. Il y a beaucoup de personnes qui se font baptiser qui meurent. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils se font baptiser pour adhérer à une association, pour adhérer à une église, pour adhérer à une dénomination, mais ils ne se font pas baptiser pour revêtir Christ. Alors que c'est Christ, Jésus, que nous devons revêtir par les eaux du baptême. Et moi, ça ne me pose aucun problème de baptiser une personne et qu'elle ne vient plus ici après, dès lors qu'elle l'a fait par la foi et par l'obéissance à la parole de Dieu. Après, elle peut aller partout où elle veut, elle est disciple. Et elle trouvera son église. Vous comprenez ça? Ce qui est important, ce n'est pas de remplir une église de personnes adhérant à une association cultuelle, c'est de remplir cette église de disciples qui deviendront des disciples de plus en plus accomplis et qui auront vécu ces trois étapes. Je vous parlerai de l'immersion dans le Saint-Esprit la prochaine. Ça vous va ? Ça doit changer nos vies, ça. En préparant le message hier, j'étais un peu énervé parce que mon fils, Timothée, il a eu son concours, ça y est, il est reçu. Il va partir dans le Val d'Oise avec Ophélie. Et je peux pas trop, il va attraper la grossette. Non, je plaisante. Il y a un an, pourquoi je dis ça? Oui, non, parce que l'ordinateur, il m'a. Par contre, il m'a fusillé mon ordinateur. On est content de l'avoir, mais on est content de le voir partir, hein, notre Tanguy. Et je vais enfin pouvoir prendre possession de mon bureau. Parce que là aussi, c'était une année compliquée. Hein. C'est tout juste si je ne devais pas aller dans les toilettes pour préparer mes messages. En fait, bref, je veux témoigner de la fidélité du Seigneur. Il y a un an, notre fils et notre belle-fille, future belle-fille, dans une semaine, sont venus nous voir et nous dit, voilà, on va se marier. Waouh, on était heureux, hein. Mais une fois qu'ils ont quitté la maison, ils sont allés se balader, et Marie-Zé m'ont regardé et dit, oh là là là, comment on va faire? Lui, il n'avait pas son diplôme, pas son concours, pas de boulot, elle non plus. Et donc, on leur a posé la question. On a commencé la préparation au baptême, au mariage. Je suis encore dans le message. Et puis, vous savez ce qu'ils nous ont répondu? On a cette conviction et nous savons que Dieu va pourvoir. Waouh! Si je dois définir leur mariage, un mariage d'amour d'abord, hein, pour se marier, il faut s'aimer. Mais il y a un mariage de foi. Il y a 3 semaines, mon fils n'avait rien. Et vous pouvez regarder mes cheveux. J'ai quelques cheveux blancs en plus. Marise aussi, parce qu'elle, elle les cache. Mais... Et on s'inquiétait vraiment. On s'inquiétait. On s'est dit, mais que va-t-il se passer après le baptême? On est heureux pour eux, mais on a... après le mariage. T'as arrêté d'enregistrer, j'espère. Je raconte plein de bêtises. Et... Il y a 3 semaines, même notre fils nous a avoué hier, il a dit, waouh, il y a 3 semaines, je disais, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire, quoi? J'ai pas de boulot, rien. Comment je vais assurer la vie du foyer? Il y a 3 semaines, mon fils reçoit un message, je crois que c'était ici, en répétant, pour le baptême. Non, c'était pour le baptême. Ouais! Je n'ai pas fait exprès, je les ai bien eus. Et il reçoit, disant qu'il l'ait reçu. Il avait 2 petites semaines pour préparer son oral, et normalement, il faut beaucoup plus de temps. Et je peux vous dire que il a passé son oral le jeudi. Sur les 120 points possibles, il a eu 120. Le lendemain, il s'est viandé complètement, parce qu'il n'avait forcément pas préparé son dossier. Mais je sentais qu'il fallait... J'ai jamais prié comme j'ai prié. Un vrai combat spirituel. J'ai tourné autour d'Arcueil, là, où on passe les examens là-bas, et j'intercédais, je priais en langue, et je priais, je dis Seigneur, bon, je sens un combat. Et il a eu donc le résultat mardi. On était vraiment très heureux pour lui et pour Ophélie. Et maintenant, d'une situation d'il y a 3 semaines où il n'y avait rien, à une situation où on compte maintenant sur la fidélité de Dieu, parce qu'il nous a dit que Dieu allait être fidèle, donc on croit, par la foi, boulot, donc de salaire, diplôme, concours, logement maintenant, on y va demain. Et je me dis, Dieu est fidèle. On a prié, ouais, on s'inquiétait. Mais Dieu est fidèle en toutes choses. Dieu est grand. Et pourtant, on ne mérite rien. Je peux vous dire, on ne mérite rien. Quand on regarde la manière dont on fait le bilan, enfin, je ne sais pas, pour les plus vieux, vous verrez, quand vous serez plus vieux, les autres, mais les plus vieux comme nous, on se pose souvent des questions. Est-ce que j'ai bien élevé mes enfants? Est-ce que j'ai fait tout ce qu'il fallait? Et souvent, on regarde et on se dit, je n'ai pas été à la hauteur sur pas mal de choses. Mais malgré ça, Dieu est fidèle. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a toujours, toujours donné à nos enfants une notion d'une vraie relation qu'ils devaient avoir avec le Seigneur. Et ça, c'est vraiment important. Nos petits bouts, là, il y en a plein qui arrivent, il faut les amener vers ça. Toutes les personnes qui viennent ici pour la première fois ou qui vont nous suivre après, on veut leur donner de cette relation avec le Seigneur. C'est ça le plus important. Voilà. J'ai fini.